Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans l'Évangile selon Jean, cette fois-ci. Évangile selon Jean, chapitre 8. Nous continuons notre série que nous avons intitulée Rencontre avec Jésus. Et nous arrivons donc à Jean, chapitre 8. Et nous allons lire les versets 1 à 11. Jean chapitre 8, à partir du verset 1er, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, pardon, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pèche plus. Jésus rencontre, après avoir rencontré Nicodème, qui était ce chef religieux, homme politique, arrogant, nous savons que, après avoir rencontré, et en fait, il lui montre que, ce chef religieux, Nicodème, ne connaissait rien, puisqu'il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et cela a surpris Nicodème. Après avoir rencontré la femme samaritaine, qui elle, au contraire, était ignorante, et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de te donner à boire. Et après avoir rencontré le paralytique et parler de montrer l'incapacité de l'homme, mais aussi les religieux légalistes qui, eux, ne s'étaient pas émerveillés du miracle en voyant cet homme marcher, mais au contraire, lui ont dit, tu ne dois pas porter ton lit un jour de sabbat. Aujourd'hui, Jésus rencontre une femme, premier mot pour les enfants, une femme surprise en adultère, mais aussi les chefs religieux. Bien sûr, l'adultère est quelque chose de très grave et a des très, très graves conséquences, non seulement sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan spirituel. L'adultère va amener des familles, des couples à se briser, des enfants à se retrouver avec un seul parent. Et plus d'union, plus d'unité de couple, de famille. Mais il semble que ce passage met en évidence un péché bien plus horrible que l'adultère. Et depuis le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas seulement la sympathie, il n'y a pas seulement l'admiration pour lui. Après la guérison du paralytique que nous avions vu la dernière fois, nous lisons en Jean 5, verset 18, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et puis, dans les chapitres 6 et 7, la foule commence à croire que Jésus est peut-être le Messie qui est promis. Jean 7, verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Et donc, ces personnes commencent à se poser la question, quelle est la réaction des les pharisiens, verset 32, entendirent la foule murmurant de lui ces choses, alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, envoyèrent des huissiers pour le saisir. Mais ces huissiers reviennent, ne l'ayant pas saisi. Verset 45, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et même Nicodème va se lever, prendre la parole, défendre le Seigneur Jésus-Christ en disant, Nicodème, verset 50, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Vous voyez la réaction de ses congénères, de ses autres pharisiens. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et voilà. Voilà le climat, voilà l'arrière-plan dans lequel Jésus va venir et faire cette rencontre. Et premier point, donc, les personnes concernées, impliquées dans cette histoire, dans cette rencontre. Il y a la femme, et on parle souvent de la rencontre avec la femme adultère, mais il y a aussi, et Jésus va répondre au chef, deuxième mot, pour les enfants, aux chefs religieux. La loi définit l'adultère comme un crime qui est punissable de mort. On peut lire en Deutéronome 22, ou en Lévitique 20. Lévitique 20 met bien en évidence que ce sont les deux personnes impliquées qui doivent être mises à mort, pas seulement la femme. Et il fallait que les personnes impliquées dans l'adultère soient prises en flagrant délit. Ce n'est pas seulement une situation compromettante. Donc il fallait des témoins, troisième mot pour les enfants, des témoins qui valident la situation jusque dans les moindres détails. Ici, on lit que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Aucune mention de l'homme. Soit ils l'ont laissé partir, soit il est dans le complot avec les scribes, parce qu'il s'agit d'un complot. Mais voilà, ils disent qu'ils ont été témoins, mais en fait ils ne présentent que la femme. Et pire, c'est que ces pharisiens, ces scribes, considèrent, utilisent la loi comme un instrument pour piéger Jésus. Quatrième mot pour les enfants. Versets 4 et 5. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» C'est une question, en réalité, qui n'avait pas lieu d'être. La loi, les scribes, les pharisiens affirment plutôt la clarté de la loi. Ils disent, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, poser la question à Jésus, quelque part, n'a aucune raison d'être, puisque la loi, elle est claire. Eux-mêmes le disent que la loi est claire. Mais Jean nous précise, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Pire encore, si ces personnes étaient témoins de l'adultère comme la loi l'exigeait, ils étaient donc dans une situation où ils pouvaient empêcher le péché. Cinquième mot pour les enfants. Ils pouvaient empêcher que cela n'aille plus loin. Si ces hommes qui se disaient être ceux qui voulaient promouvoir la loi, les commandements de Dieu, défendre la loi, ils auraient il serait intervenu pour arrêter la chose, la situation de dégénérer. Au lieu d'attendre que cela aille jusqu'à son aboutissement et pour pouvoir exploiter la situation. Il n'est pas étonnant que plus tard, Jésus va dire de ces personnes, de ces scribes, de ces pharisiens, verset 44 de ce même chapitre, où vous avez le père, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et c'est Satan, l'adversaire, fait exactement la même chose avec l'Écriture. Il va tordre le sens, il va manipuler l'Écriture pour en faire un instrument au service du péché. Et ces pharisiens, ces scribes font exactement la même chose. Ils disent que la loi est claire, mais ils vont utiliser cette loi pour essayer de éprouver et accuser le Seigneur Jésus-Christ. Et pire encore que cela, ces hommes ont humilié, sixième mot pour les enfants, ils ont humilié cette femme. Il n'y avait aucune raison d'amener cette femme en public. Même s'ils voulaient piéger le Seigneur Jésus-Christ, ils auraient très bien pu imaginer la situation, d'écrire une hypothèse au Seigneur en disant, voilà, comme les Sadducéens ont décrit une hypothèse de cette femme ayant eu sept frères, parce qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection, ils auraient très bien pu imaginer cette situation en présentant à Jésus la situation, voilà, un homme, une femme, adultère, que doit-on faire, etc. Non, ces hommes sont prêts à tout, prêts même à sacrifier cette femme pour ajouter un côté dramatique à la situation, pour mettre un peu une pression supplémentaire sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que voilà, c'est une réalité, c'est une situation réelle. Ce qui a conduit ces hommes, ce n'est pas que la femme a commis l'adultère. Ce n'est pas non plus que la parole de Dieu n'a pas été obéie. Ceux qui ont poussé ces hommes à agir ainsi, c'était le désir de piéger le Seigneur Jésus. Et rien ne les a arrêtés. Ils sont animés d'une haine contre le Seigneur Jésus et rien ne les arrête. Cette femme a été prise au piège et rien ne va arrêter ces hommes. La rencontre, deuxième point. Ces hommes, donc, comme j'ai dit, posent la question au Seigneur Jésus. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Quelles sont les options pour le Seigneur Jésus-Christ? La première réponse, il aurait pu mettre l'accent sur le pardon, septième mot pour les enfants. Il aurait pu mettre l'accent et puis parler du pardon du péché de cette femme. C'est son message, un message de grâce, un message de pardon. Mais cela aurait donné l'impression qu'il écartait la loi et son ministère aurait pu en souffrir parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas voir le mal. Et celui qui écarte les exigences de Dieu, les exigences de la justice de Dieu, ne peut pas être un messager de Dieu qui soit crédible parce que Dieu est saint. L'autre option aurait été de prendre position avec Moïse et de parler de la condamnation, huitième mot pour les enfants, de la condamnation de cette femme. Mais cela aurait été à l'encontre de son message, puisque Jean nous a rappelé en Jean 3, verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Si Jésus-Christ se tient avec Moïse, quelque part, il abandonne sa mission. Imaginez Jésus dire « Oui, cette femme est coupable, il faut la lapider. » Et la même chose pour l'homme. La même chose pour l'homme. Dès que vous le retrouverez, vous le lapidez. Si Jésus disait cela, quel pécheur viendrait auprès de lui? Quel pécheur viendrait demander miséricorde auprès de Jésus? On serait obligé de dire, ben non, Jésus condamne le pécheur. Jésus condamne le pécheur, que faire? Voilà le piège, quelque part subtil, habile, le piège de ces religieux. Mais dans sa réponse, Jésus va montrer qu'il est maître absolument de tout. Jésus s'abaisse et il écrit avec le doigt sur la terre. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de ce que Jésus a écrit. Des choses plus ou moins sérieuses, mais j'en ne le dis pas. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Jésus a écrit. Mais Jésus n'est pas pris de court et il lance ce challenge. Il dit au verset 7 que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et en agissant ainsi, en fait, il n'écarte pas la loi. Mais en plus, il va protéger la femme parce que la conscience de ces hommes va les accuser. Ce que Jésus dit à ses scribes, à ses pharisiens, leur rappelle que ce sont les témoins, neuvième mot pour les enfants, les témoins qui devaient jeter la première pierre. Deutéronome 17, verset 7. Et que ces témoins ne devaient avoir aucune part avec le crime. Or, tout cela est un complot. Tout cela est organisé pour piéger Jésus. Et de plus, le Seigneur Jésus passe du niveau légal, procédural, au niveau moral. Et là, aucun homme ne peut tenir. Et Jésus le fait toujours dans ses rencontres. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, c'est le contenu. Ce n'est pas le formalisme, le légalisme, comme nous avions souligné la dernière fois. C'est la réalité, c'est la vie. Et dans la présence du Fils de Dieu, ces hommes, ces scribes, ces pharisiens ne peuvent pas aller plus loin. En une seule phrase, Jésus a anéanti leur complot. Quand ils entendirent cela, accusés, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. L'attitude, troisième point, l'attitude et les paroles de Jésus. C'est étonnant, mais c'est là, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne traite pas la femme comme les scribes et les pharisiens l'ont fait. C'est toujours triste de voir quelqu'un utiliser la parole de Dieu, non pas pour annoncer la grâce, non pas pour annoncer la vérité en Jésus-Christ, mais pour détruire des personnes, simplement pour faire avancer un agenda personnel. On a vu ça avec les légalistes religieux et l'homme paralytique. On le voit encore ici et ça existe encore aujourd'hui. Mais premièrement, Jésus ne considère jamais les êtres humains comme des outils, comme des choses. Il s'adresse à nous, à chacun, en tant qu'individu. Dixième mot pour les enfants. Il nous connaît, il connaît l'être humain. Jean 2, versets 24 et 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il connaît cette femme, il connaît son péché, il connaît sa situation, il la comprend en tant qu'individu. Et deuxièmement, il lui manifeste de la compassion, 11e mot, pour les enfants. Il est souvent ému de compassion à cause de son amour. Et là, il est ému de compassion et il offre son pardon à cette femme. Imaginez la scène. Tous les accusateurs partent. Tous les accusateurs sont sous la condamnation de leur propre conscience. Et ils partent. Ils partent et il y a un silence dans le temple. Il y a un silence dans le temple et le Seigneur se retrouve seul avec cette femme. Et s'étant relevé, verset 10, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le texte nous dit donc que Jésus s'est abaissé pour écrire. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais il s'est baissé et il me semble qu'il le fait, il fait cela pour ne pas regarder la femme jusqu'à un certain point. Jésus aime et respecte la loi de Dieu. Et comme il le dit lui-même, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et l'accomplir parfaitement. Et ici, il veut l'accomplir autrement que par la condamnation de cette femme. Et c'est pour ça qu'il ne va la regarder que lorsque la loi et les témoins sont retirés. Les témoins, la loi, 12e mot pour les enfants. Lorsque la loi et les témoins sont retirés de la scène, les accusateurs sont partis. Donc, la loi n'a plus de force. Puisque cette personne, cette femme, était condamnée par cause des accusateurs, des témoins qui étaient censés avoir vu la scène et qui, selon la loi, étaient là pour l'accuser. Mais maintenant, ils partent. Ils sont enlevés, ils sont écartés. Jésus demande, verset 10, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» La puissance de la loi, Paul écrit en 1 Corinthiens 15, c'est la puissance du péché, pardon, c'est la loi. Et Jésus va parler, va traiter avec cette femme quand la puissance du péché a été enlevée. Quand les témoins, les accusateurs ont été enlevés. Il manifeste sa grâce à cette femme. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Un jour, il viendra et il condamnera. Mais pendant son ministère sur terre, et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour sauver. Jésus dit à cette femme, tout être qui vient auprès de lui, demandant sa miséricorde, « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus annonce le pardon, 13e mot pour les enfants. Les religieux voulaient le prendre au piège. Les religieux voulaient mettre en opposition le pardon, la grâce dont Jésus parlait déjà depuis le début de son ministère et la justice parfaite de Dieu qui est révélée dans la loi. Cette justice qui exige le paiement d'une rançon. Mais Jésus va répondre, et Jésus répond. Il n'écarte pas la loi, mais il apporte le pardon. 4e point, comment est-ce que cela est possible? Sur quelle base Jésus peut-il dire, je ne te condamne pas non plus? La réponse est, bien entendu, dans la croix. 14e mot pour les enfants. Jésus se dirige vers cette heure et l'évangile de Jean utilise, vous le savez, cette expression de cette heure où son heure n'était pas encore arrivée jusqu'à la crucifixion. Et Jésus se dirige vers ce temps. Jésus l'avait dit à Nicodème, Jean 3, versets 14 et 15, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a pris les péchés de son peuple, les péchés de cette femme. Il a pris notre culpabilité, la culpabilité de cette femme, de sorte qu'il peut dire à cette femme et qu'il peut nous dire, à nous qui croyons en Christ, « Je ne te condamne pas non plus. » Il peut dire cela parce que lui a chassé les accusateurs. Il a pris sur lui la culpabilité de chacun, de ceux qui croient en lui. Et il a subi la condamnation à notre place. Comme nous l'avons lu dans le psaume 85, c'est à la croix que se résout le dilemme entre la justice et la miséricorde. La justice, 15e mot pour les enfants, et la miséricorde, la justice et la paix s'embrassent. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Je ne te condamne pas non plus. Les conséquences, 5e point. Première conséquence, c'est ce que Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean l'avait annoncé au début de son évangile. Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus n'est pas opposé à la loi. Il sauve son peuple, non pas en méprisant la loi, non pas en méprisant, en ignorant les exigences de la loi, mais en accomplissant toutes les exigences de la loi, en accomplissant tout ce que la loi demande. Et il nous rachète pour une vie nouvelle, 17e mot pour les enfants, une vie d'obéissance, une vie pour lui. La loi qui nous condamnait est maintenant inscrite sur nos cœurs. Va et ne pêche plus. On ne peut pas parler du pardon des péchés sans parler d'une nouvelle vie en Christ, une vie d'obéissance. Mais on ne peut pas inverser l'ordre. Ce n'est pas essayer de vivre une vie d'obéissance et puis Jésus verra, réfléchira à la possibilité peut-être de vous pardonner. Non, c'est d'abord que Dieu nous pardonne en Christ et il nous donne cette nouvelle vie en Christ. Une vie qui s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son œuvre. Paul dira dans sa lettre à Tite, chapitre 3 et au verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Pas selon nos œuvres, pas selon même nos œuvres de justice, mais selon sa miséricorde et par la régénération de l'Esprit. Je ne te condamne pas. Personne ne peut nous accuser. Personne ne peut nous accuser. C'est ce que Paul dira dans Romains chapitre 8, quand il parle de cette liste et de ces réalités. Celui qui est en Christ, il dit, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Romains 8, 33, « C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ?» Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il termine en disant, « Personne, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne ne peut nous condamner parce que Jésus nous dit, et il dit à cette femme, « Je ne te condamne pas, moi non plus. » Tous ne sont pas pardonnés. Jean, au début de sa lettre, au chapitre 3, écrit au verset 16, ce verset que nous connaissons bien, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les scribes et les pharisiens mettaient leur confiance dans leur religion, leur formalisme. Ils sont partis parce qu'ils ont rejeté le Sauveur. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Leur conscience les accusait. Et au lieu de demander pardon, ils ont rejeté le Seigneur et Sauveur. Et puis il y a aussi la foule. La foule qui était présente, qui a vu, qui a entendu ce que Jésus a dit à cette femme, qui a vu, qui a connu, qui a entendu de cette situation, qui a vu ce qui s'est passé, qui a vu ses sacrificateurs, ses scribes sortir, partir. Mais aucun n'a demandé à Jésus de le pardonner. Ils étaient indifférents. Cette femme coupable, humiliée, prise au piège par la haine de ces chefs religieux qui étaient prêts à utiliser tous les moyens pour essayer d'attraper Jésus. Cette femme, elle connaît le pardon de Dieu. Elle connaît cette vie nouvelle que Dieu lui donne. La loi la condamnait, mais Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Lui a accompli la loi. Et la loi ne peut pas nous condamner, à nous qui sommes en Christ. Merveilleuse grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il sauve, il rachète cette femme et des personnes comme elle qui sont coupables, et il condamne ceux qui, comme les scribes et les pharisiens, se réfugient dans la religion, dans le formalisme et leur propre conscience. Les condamne quand ils sont confrontés au Fils de Dieu. Mais quelle grâce merveilleuse que Jésus manifeste encore ici à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et c'est cette merveilleuse réalité pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions comme elle, coupables. Coupables de nos péchés, coupables de notre désobéissance, mais dans sa grâce, Dieu nous a cherchés et nous a donné ce salut parfait. Et personne, ni même la loi, ne peut nous condamner lorsque Jésus nous dit « Moi, je ne te condamne pas ». Si nous sommes en Christ, nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que rien ne peut nous condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse grâce Dieu manifeste et Jésus révèle ici encore dans cette rencontre avec cette femme adultère. Mais quelle condition terrible que celle des scribes et des pharisiens, qui se réfugie dans un formalisme religieux, qui utilise la loi non pas pour parler de grâce, mais comme un outil pour détruire ou pour piéger. Et leur condition, leur finalité sera terrible. Mais quelle grâce Dieu manifeste, même au pire des pécheurs. Et nous voulons nous réjouir de cette merveilleuse évangile, de cette merveilleuse grâce que Dieu manifeste et qu'il manifeste encore aujourd'hui à ceux qui se tournent vers lui et qui regardent à lui. Et nous voulons terminer notre culte par chanter le cantique numéro 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. Le cantique numéro 240.